Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Bonjour Julien Libert.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes pianiste et demain sort chez Harmonia Mundi votre disque Jean-Sébastien Bach and Beyond, A Well-Tempered Conversation. Vous serez mercredi prochain en concert au musée Guillemets dans le cadre de Pianissime, ce festival, et puis en Belgique, Pays-Bas, en Angleterre, donc pour la suite de vos concerts, on l'espère pour vous. On célèbre, Julien Libert, cette année, en 2022, les 300 ans de la composition du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Il date donc de 1722, quand le second, lui, date de 1744. Vous l'avez associé dans le disque, on va en parler tout au long de l'entretien, à d'autres œuvres. Il y a beaucoup de diversité, donc Bach associé à Beethoven, Ravel, Busoni, Ligeti, Fauré. Comment vous est venue cette idée, ce jeu de miroir que l'on connaît bien chez vous, puisque vous avez déjà fait ça avec Bartok et Bach?
De façon assez peu originale, je dirais que ce disque, comme beaucoup de disques qui sortent en ce moment, est le fruit du premier confinement.
C'est à ce moment-là que vous l'avez pensé comme ça?
Non, c'est à ce moment-là que j'avais rien à faire comme tout le monde et que je me suis dit, faut que je m'occupe et pas que je devienne trop dingue. Et je me suis tourné enfin, parce que j'en avais le projet depuis longtemps, vers le clavier bien tempéré de Bach. Parce que je me suis dit, c'est un gros morceau, ça me donnera un truc à faire, parce que Dieu sait combien de temps ça va durer. Et puis voilà, je me ferai un chemin à travers d'abord les 24 et puis les 48 préludes et fugues pendant les mois qui suivent. Et puis à ce moment-là, il y a Harmonia Mundi qui me demande qu'est-ce qu'on fait au disque. Parlant de ce bac-là, ils me disent « mais est-ce qu'on ferait pas le premier livre du clavier ?» Et passer le côté flatteur, parce que d'un côté, ça fait rêver d'enregistrer ça, je me suis dit « il y a peut-être autre chose à faire ». Parce que déjà, parce que enchaîner, que ça soit au disque ou en concert, 2 heures de contrepoint complexe, c'est un exercice assez ardu, qui n'est pas forcément très grand public, quoi, c'est pas une soirée Chopin. Et puis en plus, parce que plus je m'y plongeais, plus je me disais que si l'œuvre en elle-même est passionnante, son destin l'est tout autant. Déjà parce que symboliquement, Bach écrit pour la première fois dans l'histoire une œuvre qui fait le tour des 24 tonalités majeures et mineures, ouvrant ainsi quelque part le champ de la tonalité de l'harmonie tonale qui va nourrir les 3 siècles qui vont suivre, qui vont aboutir, Mahler, Schoenberg, etc. Donc il y a un moment très fort là. Et puis aussi parce que Bach ayant voulu écrire une œuvre avec une vraie dimension pédagogique, une œuvre qui soit à la fois méthode de clavier, traité de composition, encyclopédie panoramique de style, il a tellement bien réussi son coup que tous les compositeurs qui ont suivi, des plus grands aux plus modestes, se sont tournés vers ce cycle-là jusqu'au 19e siècle qui lui avouait un culte quasiment biblique. Donc je me suis dit, plutôt que de planter de façon solennelle, patriarcale, une énième version au disque du premier livre, peut-être qu'il y a moyen de faire un programme qui visite cette dimension-là du clavier bien tempéré.
Et surtout au niveau des tonalités, puisque vous avez eu cette idée originale quand même, c'est de faire converser ces préludes et fugues du premier livre en tonalité majeure, avec cette fois-ci des œuvres donc d'autres compositeurs, mais dans la tonalité correspondante en mineur.
Oui, parce que un des problèmes qu'on a quand on travaille ce cycle-là, c'est qu'il est tellement au niveau de sa structure en béton armé, c'est-à-dire les 24 tonalités, c'est-à-dire c'est un bloc de granit, quoi. Donc, comment est-ce qu'on intervient là-dedans sans que ça enlève l'épine dorsale de la chose? Je me suis dit que comme Bach s'y montre d'une méthode et d'un rigueur proche de la maniaquerie, il fallait au moins que je respecte ça.
Thank you. fugue du prélude et fugue en ut dièse majeur, BWV 848 de Jean-Sébastien Bach, un extrait du premier livre du clavier bien tempéré, donc de Jean-Sébastien Bach, interprété par notre invité ce matin, Julien Libert. Alors nous l'avons dit, chacun des livres du clavier bien tempéré propose un prélude et une fugue dans chacun des 12 demi-tons de la gamme chromatique, 24 préludes et 24 fugues donc pour chacun des deux livres. Bach, ce monstre sacré de la littérature pianistique, on l'a dit aussi avec précisément ce clavier bien tempéré. Est-ce qu'il a été facile pour vous d'oser sortir de cette fameuse intégrale, comme on l'a dit tout à l'heure, Julien Libert, en proposant autre chose, justement, cette conversation? Ça a été facile d'oser proposer autre chose?
Dans la mesure où j'avais l'impression que c'était pertinent comme idée derrière, je ne me suis pas trop senti gêné. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a, je le disais, il y a ce cycle à des harmonies quasiment religieuses. On lui voue un culte comme vraiment un document fondateur de notre langage musical. Mais en même temps, je pense pas que je l'ai trahi en n'en proposant pas forcément des lectures intégrales à l'instant. Je pense qu'il y avait un intérêt à tenter de le faire comme ça. Puis tout ça rentre aussi dans une considération plus large de à quoi ça sert de faire des disques encore aujourd'hui quand on peut littéralement tout enregistrer n'importe où. C'est devenu beaucoup plus facile d'enregistrer en soi. Donc je trouve que quand
on... Et alors, à quoi ça sert selon vous, Julien Libert?
J'ai pas de réponse figée, puis peut-être que dans un an j'aurai un autre avis, mais je trouve que en ce moment ce qui m'intéresse beaucoup dans mon métier, c'est la dimension quasiment patrimoniale, c'est le fait que on est dépositaire le temps que ça dure d'un patrimoine musical qui est encore en cours de développement par ailleurs, mais sur lequel il est intéressant de poser un regard qui permet de d'éclairer un peu différemment de temps à autre certaines choses. Et je pense que le 10 c'est un bon format pour ça aussi parce que il propose un cadre fixe, c'est-à-dire le disque, on dit parfois que l'objet est désuet, parce qu'après tout, on pourrait faire mettre tout sur Spotify ou sur Deezer, et puis on pourrait faire des disques qui durent 4 heures. Or, le disque lui-même, on peut mettre 80 minutes dessus, et c'est tout. Mais j'aime bien ce côté canevas, parce qu'il oblige de... il rend certaines choses impossibles, du coup, il crée des champs de créativité qu'on n'a pas forcément quand on a une page blanche infinie devant soi.
On l'a dit, vous l'avez associé, ces extraits du premier livre de ce clavier bien tempéré à des œuvres plus tardives dans des tonalités correspondantes au prélude des fugues de Bach, mais cette fois-ci en mineur. Il y a donc des œuvres de Beethoven, Ligeti, Fauré, Ravel, Busoni. Comment vous avez choisi justement ce cadre? Il a fallu choisir des compositeurs. Et par exemple, on n'a pas Mendelssohn, alors qu'on pourrait l'associer à la musique de Jean-Sébastien Bach, évidemment. Comment vous avez sélectionné ces œuvres-là?
C'est vrai que pour une fois, ce qui n'était pas du tout de mes habitudes, je suis parti d'un plan sur papier. C'est-à-dire, j'avais ma grille de tonalité, il fallait que je bouche les trous en mineur. Il y a certaines œuvres qui sont imposées...
Il n'y a aucune transcription, donc vous avez vraiment trouvé
non.
Les
Non, il y a seulement avec Adam Laloum qui m'a fait le plaisir de, oui. De me rejoindre pour une pièce de Mozart à deux pianos. Ça, c'est une transcription par Busoni pour deux pianos, mais c'est quand même du Mozart. Il y a des pièces qui sont imposées toutes seules, il y a des pièces où j'ai dû chercher, j'ai découvert par exemple qu'il y a très peu de pièces polyphoniques en si bémol mineur, pas forcément polyphonique parce que les leçons du clavier intempéré sont pas seulement polyphoniques, mais en tout cas qui rentraient dans le cadre. J'ai essayé de me garder surtout de faire, d'habiller une thèse musicologico-historique avec des notes. Le but c'était pas de prouver un point, c'est parce qu'à ce moment-là, effectivement, on aurait dû mettre du Mendelssohn, on aurait dû mettre du Liszt, on aurait dû mettre du Schumann. Je voulais faire une trajectoire musicale qui avait du sens, hein, avec un arc qui tenait du début à la fin et qui emmenait vraiment l'auditeur dans un voyage qui commençait avec le prélude des fugues en do majeur et qui terminait, en l'occurrence, avec le prélude en do majeur de nouveau de Bach, parce que je fais un petit rappel à la fin. Donc j'ai choisi ça à la fois en fonction de la pertinence par rapport aux propos, mais aussi en fonction des enchaînements.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très naturel dans l'écoute.
C'était le but, je suis content si vous avez perçu comme ça.
Nous allons écouter un autre extrait de ce disque, cette fois-ci pas Bach, mais Sergueï Rachmaninov, son prélude en ré mineur, l'opus 23, numéro 3. Est-ce que là, vous pouvez nous dire peut-être ce qu'on entend de Bach dans ce Rachmaninov?
C'est très subjectif.
Bien sûr.
Et ça marche dans l'enchaînement. Je pense objectivement, ce qu'on peut y retrouver déjà, c'est évidemment la forme du prélude que Bach a instauré. C'est aussi le fait que dans ce prélude, qui est une forme libre, Rachmaninov intègre le caractère d'un menuet. Et c'est quelque chose que Bach a beaucoup fait dans ses propres Prélude et Fugue, notamment dans les fugues, et c'était sa vraie innovation, c'est d'avoir intégré des rythmes dansants dans des formes qui, a priori, ne sont pas forcément dansantes. Et en plus, dans la coda de ce prélude, il y a un canon à quatre voix, donc on ne boude pas son plaisir.
Nous vous écoutons, Julien Libert. À 8h44 sur France Musique, Julien Libert dans ce prélude pour piano en ré mineur opus 23, numéro 3 de Sergueï Rachmaninov. Un extrait de son tout nouveau disque qui sort après-demain chez Harmonia Mundi, qui fait converser quelques préludes et fugues du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach avec des œuvres plus tardives à l'instant comme Rachmaninov, mais on va en écouter d'autres pour se rendre compte de ces enchaînements très naturels que vous avez choisis, Julien Libert. Julien Libert, vous travaillez également au-delà du disque. On a parlé de la place du disque, mais aussi on va parler de la place de l'artiste dans la société. Vous travaillez toujours dans cette école de Molenbeek à Bruxelles pour un projet avec des enfants.
Ah, ces écoles, mais il y en a 8 maintenant.
D'accord.
Oui, ça a commencé il y a 6 ans. Je n'en suis pas du tout à l'origine. C'est un ami à moi qui a démarré ça. Et c'est un projet de chorale d'enfants sur l'heure du midi, 2 fois par semaine. Enfin, en tout cas, ça a commencé comme ça.
Vous les accompagnez?
Au début, je le faisais beaucoup. J'avoue que maintenant, je le fais un peu moins. Mais je reste très impliqué dans, on va dire, la ligne générale de la chose. Le but étant, quelque part tout bêtement, d'aller offrir un enseignement musical, vocal de qualité dans une commune qui est un peu célèbre pour un tas de mauvaises raisons, on va dire. D'ailleurs, on pourrait discuter mille fois de la caricature qui est faite de Molenbeek assez souvent comme ville de terrorisme, machin. Enfin, on en parle beaucoup maintenant avec le procès Abdeslam. Peu importe. Ça, je m'en occupe toujours beaucoup.
C'est important pour vous. C'était une responsabilité en tant que musicien de le faire.
Oh, vous savez, j'ai pas de grande théorie là-dessus. Je vais pas théoriser que tous les musiciens doivent être avant tout des travailleurs sociaux. Mais en tout cas, dans ma trajectoire à ce moment-là, avec cet ami-là, ça avait du sens d'y aller. Et puis, j'y ai toujours pris beaucoup de joie parce que, ne serait-ce que pour des raisons au-delà de la question sociale, j'y trouve mon compte aussi parce que, vous savez, être musicien classique, c'est quand même un peu un métier de névrosé où on se prend la tête sur un staccato par-ci, un legato par-là. Or, être en contact avec des gamins qui chantent à tue-tête avec une espèce d'enthousiasme parfois presque sauvage, en tout cas débordant, bah ça permet quand même de se reconnecter à quelque chose d'essentiel dont on espère toujours que ça reste présent dans notre propre jeu.
Julien Libert, vous êtes belge, donc comment ça se passe concrètement? Justement, vous parliez des élèves qui chantent comme ça, avec débordement, et tant mieux. Comment ça se passe concrètement, la pratique pour les élèves? C'est comme en France, le masque, il y a des...
Écoutez, probablement comme en France, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris comment c'est censé marcher en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu moins contraint que ce qui se passe en France en ce moment. Il n'empêche que voilà, on n'est pas du tout encore revenu à ce que c'était. Et en ce qui concerne la répétition de chorale, je pense qu'elle se passe avec masque, oui.
Des milliers de personnes se sont rassemblées fin décembre à Bruxelles pour protester contre la fermeture des lieux culturels à cause de la recrudescence du Covid. C'est la première fois qu'il y avait un secteur qui défiait les mesures de restriction imposées par un gouvernement. On sait ensuite que le gouvernement a fait un peu marche arrière. Ça en est où aujourd'hui? Ça reste ouvert, mais il y a des jauges réduites.
On est revenu à ce qui était la règle en décembre. C'est-à-dire en décembre, les jauges étaient limitées à 200 personnes. Fin décembre, le gouvernement a dit on ferme tout. Et puis là, le Conseil d'État a été saisi par, pour aller vite, le monde culturel, parce qu'on estimait que ça ne reposait sur aucune... que ça n'avait pas de justification objective scientifique, ça n'avait pas été conseillé par le comité d'experts. Le Conseil d'État a donné raison au monde culturel et donc ils ont dû revenir aux conditions d'avant. Ça reste des conditions précaires, mais au moins on peut quand même un peu jouer, quoi.
Et donc vous pourrez certainement, on croise les doigts, jouer votre programme de ce tout nouveau disque, Julien Libert, en Belgique. Ce sera à Bruxelles.
En Belgique, il y a une date à Flagey, oui, fin janvier.
Pays-Bas, Angleterre, et puis donc mercredi prochain en France, donc à Paris, au musée Guimet, dans le 16e arrondissement, dans le cadre de Pianissime. Nous allons écouter un autre extrait de votre disque, Gheorghe Ligeti, Musica Ricercata. Là, il y a une tonalité précise, donc laquelle?
Il n'y a pas une tonalité, il y a une note.
Une note, c'est le La.
Thank you.
Et on n'est plus sur un la, là, la dernière note.
Non.
C'est un ré ?
C'est un ré.
Le tout début des Musica Ricercata de Gheorghi Ligeti, qui date des années 50, interprété par Julien Libert, un extrait donc de votre prochain disque qui sort après-demain chez Harmonia Mundi, autour de Bach et œuvres plus tardives. Il y a une inventivité incroyable ici, on n'a donc qu'une note, mais du coup tout se joue sur le rythme.
Oui, puis c'est curieux parce que d'un côté, on pourrait dire cette pièce-là, c'est l'anti-Bach par excellence. C'est-à-dire Bach, c'est la polyphonie, l'harmonie. Là, il n'y a ni polyphonie ni harmonie. Mais en fait, là où c'est similaire, c'est que dans l'écriture de Bach, il y a une jouissance de la contrainte. C'est-à-dire le côté joueur d'échecs qui résout des puzzles. D'ailleurs, l'écriture d'une fugue, c'est exactement ça. On est écrasé de règles et il faut essayer d'en faire de la musique. Et là, Ligeti fait un peu la même chose. C'est-à-dire, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire si je ne me permettais qu'une note? Et ben ça.
Ça, absolument. Non, c'est vrai que c'est assez fascinant à écouter. Oui. Julien Libert, vous étudiez toujours avec la pianiste Maria João Pires.
Oh, quel bel accent.
Je suis à moitié portugaise, je dois l'avouer.
Je comprends. Ça fait un moment maintenant que je ne l'ai pas vue. J'ai étudié avec elle, en gros, jusqu'à mes... entre mes 25 et mes 30 ans, je l'ai beaucoup fréquentée. Oui.
On pourrait imaginer que vous avez ça en commun avec elle, c'est-à-dire ne pas rester focus dans une niche très précise, mais de pouvoir penser la musique comme la vie, enfin quelque chose de très généreux en fait.
Peut-être. En tout cas, c'est sûr que j'ai beaucoup appris, presque par osmose, d'elle en la fréquentant. Elle est à l'origine de beaucoup de mes réflexions d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un peu de ça dedans, oui.
Est-ce que pour vous, être interprète, c'est aussi évidemment une façon de jouer, mais aussi de construire des programmes, justement, d'ouvrir des portes, là, de ce que vous proposez? C'est quand même une façon très personnelle.
Je pense que c'est dans la programmation qu'on a notre plus grande marge de manœuvre quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des libertés d'interprétation quand on joue le répertoire en lui-même, mais je trouve qu'il y a il y a moyen de vraiment travailler nous-mêmes la composition en composant les programmes et en voyant comment on peut mettre ensemble des œuvres qui ne sont pas forcément souvent combinées, mais qui se complètent, à la fois se contredisent et où il y a une tension heureuse. Quoi.
Vous l'aviez fait déjà donc avec votre précédent disque Bach Bartok. Julien Libert, je rappelle, votre concert le 19 janvier prochain, c'est mercredi, au Musée Guimet à Paris dans le 16e, donc pour donner une partie de ce programme, de ce nouveau disque Bach and Beyond, qui sort donc ce vendredi chez Harmonia Mundi dans le cadre du festival Les Pianissimes. Et puis, évidemment, d'autres concerts à venir, comme on l'a dit, on croise les doigts, en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre. Vous avez fait de la radio, Julien Libert ?
Maintenant, par exemple ?
Oui, vous voulez annoncer votre prochain disque que nous allons écouter tout de suite, c'est le prélude du prélude des fugues.
On va écouter le prélude du prélude des fugues en mi bémol majeur de Bach.
BWV 852.
Il faut dire ça aussi, d'accord.
Merci d'avoir été avec nous, Julien Libert.
Merci à vous.
Julien Liber dans ce prélude du prélude des fugues en mi bémol majeur BWV 852 de Jean-Sébastien Bach. Julien Liber qui joue sur un piano dans ce disque, un piano Chrisman à corps parallèle. Demain, notre invité sera le musicien Johan Fargeau. Je remercie toute l'équipe de Musique Matin, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon et Yacine Bouzard à la réalisation. Avec nous à la technique ce matin, Swad Boukorsa et José Bernès.